La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Il se dit ce matin que la reine d'Angleterre, Elisabeth II, serait entrée dans sa seconde annus horribilis.
Oui, on se souvient que la première année noire pour la monarque britannique, c'était 1992. Après, coup sur coup, l'indépendance de l'île Maurice, l'incendie du château de Windsor et toute une série de scandales et de séparations désastreuses au sein de la famille royale. Eh bien, selon Rafa de Miguel dans les colonnes d'El País ce matin, 2019 restera sans doute pour Elisabeth II une autre annus horribilis. Et ce n'est pas seulement à cause du Brexit, car à nouveau, un rejeton de la royauté fait la une des journaux, qui plus est, le plus sulfureux d'entre eux, j'ai nommé Andrew. Le duc d'York, âgé de 59 ans, est le deuxième fils d'Elisabeth, mais l'huitième seulement dans l'ordre d'accession au trône. Et il traîne depuis toujours, comme nous le rappelle le Guardian, une réputation de prince fêtard et dévoyé. Andrew, donc, jette la disgrâce sur toute la famille royale à cause de ses liens d'amitié avec feu Jeffrey Epstein, cet ex-tycoon de la finance américaine multimillionnaire condamné pour proxénétisme en 2008, s'est suicidé au mois d'août en prison à New York après avoir été de nouveau accusé d'agression sexuelle sur des mineurs. L'une de ses accusatrices implique aussi le prince Andrew, grand ami donc d'Epstein. Elle dit, cette jeune femme, avoir été forcée à avoir des relations sexuelles à plusieurs reprises dans différentes résidences du financier new-yorkais avec le prince britannique, donc alors qu'elle avait entre 15 et 17 ans.
Et face à ces très graves accusations, le prince Andrew a tenté de s'expliquer dimanche dans une interview à la BBC, mais ça ne s'est pas passé comme il l'avait prévu.
Et c'est le moins que l'on puisse dire à lire le résumé qu'en fait The Daily Express. Il décrit un prince Andrew enfermé dans son déni de tout abus sexuel, brandissant comme alibi une improbable maladie qui l'empêcherait de suer et une soirée pizza avec ses enfants le jour où il accusait d'avoir violé la jeune femme. Andrew, donc, dimanche, s'est surtout montré incapable de témoigner la moindre empathie envers les victimes de Jeffrey Epstein et de ses réseaux pédophiles, incapable aussi de condamner ou de justifier ses liens d'amitié avec ce millionnaire pédophile, malgré les condamnations précédentes de ce dernier. Au pire moment de ce naufrage télévisuel de la vie de tous, le prince Andrew parle de comportements inappropriés pour décrire les crimes commis par son ami sur des mineurs. Il ne prend clairement pas la mesure de la gravité de ce dont il est accusé, commente encore le Daily Express qui nous raconte la suite de cette interview. L'indignation unanime dans les médias et l'opinion britannique, les grandes sociétés de la City et les principales organisations de charité du pays qui, craignant d'être éclaboussées par le scandale, retirent leur soutien financier aux bonnes œuvres du prince, et la reine Elisabeth II qui se retrouve forcé d'apporter son soutien malgré tout à son fils. C'est là qu'on en revient à l'annus horribilis dont parle El País.
Et l'affaire ne va pas s'arrêter là. Les pressions se multiplient autour du prince Andrew pour qu'il accepte de témoigner face aux enquêteurs américains du FBI.
A commencer par une autre victime d'Epstein qui reste anonyme et qui déclare dans The Independent que le duc d'York, s'il considère qu'il n'a rien à se reprocher, eh bien devrait dire tout ce qu'il sait sur son ancien ami, donc au FBI. Mais sur sa une du jour, l'édition londonienne du journal Metro s'interroge. Andrew devra-t-il faire face aux tribunaux américains? Les avocats de la douzaine de plaignantes contre Jeffrey Epstein veulent l'entendre. Tout prince qu'il est, Andrew n'est pas protégé par une immunité, affirme dans le Daily Mail des spécialistes du droit. Il pourrait donc, en théorie, être mis en accusation et extradé vers les États-Unis. Sans attendre une telle improbable éventualité, si le duc d'York veut vraiment aider les victimes d'Epstein à se reconstruire, eh bien, il doit aller de lui-même témoigner au FBI. Ça, c'est le conseil que lui donne Chris Stevenson dans The Independent. C'est surtout, selon lui, la seule façon d'éviter de s'enfermer plus encore dans le silence de l'impossible déni et préserver, si c'est encore possible, l'honneur de la famille royale.
Et puis, on termine avec la Russie, où Vladimir Poutine, Camille, s'érige de lui-même en pourfendeur de la corruption et des détournements d'argent public.
Oui, c'est la BBC, encore elle, qui revient sur ce dossier, lequel secoue les médias russes depuis maintenant une semaine. C'est vrai, Vladimir Poutine, en personne, a joué les lanceurs d'alerte mercredi 11 novembre en dénonçant les voleurs qui s'étaient engraissés sur l'un des chantiers publics qui tiennent le plus à cœur au président russe, à savoir la construction dans l'extrême-orient russe d'une nouvelle base de lancement spatial nommée Vostochny.
Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов.
Ils nous ont volé des centaines de millions de roubles, répète le président russe, qui annonce aussi que des enquêtes ont été menées, des peines de prison prononcées contre plusieurs des responsables de ce détournement donc d'argent public qui s'élèverait en fait à 11 milliards de roubles, soit 155 millions d'euros. C'est énorme, ce n'est peut-être pas si rare en Russie, mais ce qui est rare, c'est que ce soit rendu public et érigé en exemple de l'intransigeance de l'État face donc à la corruption. Alors la BBC s'interroge, pourquoi Vladimir Poutine fait-il de cette affaire une exception ? Sans doute à cause de l'ampleur des montants concernés et du caractère très médiatique, très stratégique de ce chantier spatial de Vostochny. Toujours est-il qu'en faisant cela, le président russe déclare la guerre à son administration, à ses entreprises publiques, autant dire à sa propre élite, explique un spécialiste britannique de la Russie, toujours à la BBC. S'il en prend le risque et s'attaque frontalement à la corruption dans ces secteurs, c'est certainement, suggère Leonid Berchitsky dans Bloomberg, parce que Vladimir Poutine voit que son grand rêve pour la Russie, ses 12 chantiers d'importance nationale et prioritaire pour relancer la croissance et le développement dans son pays, ce grand rêve fait du surplace. Et ce n'est pas que l'argent manque, tous les grands chantiers sont financés, mais au-delà de la corruption qui prend sa part, les bureaucrates russes, selon Berchitsky, sont réticents à l'idée d'engager ces dépenses publiques, trop effrayées par les montants engagés et les responsabilités que cela implique. Alors ils dépensent l'argent de l'État à des choses qui confortent leur pouvoir à court terme, comme la sécurité et la défense. Rien en tout cas qui permette d'améliorer durablement la qualité de vie des citoyens russes. Toujours est-il, résume le journal Vesti à Moscou, que l'enquête sur les détournements de Vostochny a déjà identifié 58 personnes mises en cause. Plusieurs d'entre elles, des responsables de sociétés de BTP en particulier, ont été condamnées à des peines de plusieurs années de prison ferme. Voilà pour l'exemple voulu par Vladimir Poutine avec un message finalement simple. Dépensez l'argent public, oui, mais dépensez-le honnêtement.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, 7h42.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.